Vous êtes une femme leader. Vous connaissez une femme leader.
Responsable politique, haut cadre d'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires. Connectons-nous, faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 629 11 54 ou alors par email femmeleader@gmail.com.
Et oui, encore une fois, bienvenue dans Capi Service, le magazine de la vie au quotidien. Bien, aujourd'hui, nous allons parler de hors session, de l'épreuve de l'examen d'État, édition 2020-2021. Eh bien, c'est depuis le lundi 12 juillet que les élèves finalistes du secondaire passent les épreuves hors session de l'examen d'État. Une occasion pour évaluer, vérifier les degrés d'assimilation des connaissances acquises par chaque élève au cours de son cursus scolaire. Ces épreuves n'ont pas pu se dérouler dans certains coins du pays. Alors, près de 700 000 élèves sont soumis aux épreuves des dissertations français oral, pratiques professionnelles, etc. Alors, comment se déroulent dans l'ensemble ces épreuves? Serge Bondedi est secrétaire général de la SBEL IMAE et coordonnateur de la campagne École Zamombongote. Il déploie souvent les membres de son organisation pour voir aussi, constater, observer comment se déroulent les épreuves. Serge Bondedi, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans l'ensemble, comment se déroulent les épreuves hors session de l'examen d'État?
Oui, dans l'ensemble, ce qu'il faut d'abord noter de positif, c'est le fait que le gouvernement a tenu avec les échéances fixées par le calendrier, c'est-à-dire que malgré dans ces contextes de la pandémie à Covid-19, les épreuves hors session ont eu lieu sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de quelques coins, notamment à Kainama, à Tchabi et à Boga, précisément dans la partie est du pays, suite aux attaques répétitives des groupes armés qui a poussé les enfants à faire presque 200 kilomètres, donc d'atteindre Bounia pour passer leurs épreuves. Il y a aussi de plus en plus l'accroissement du taux de participation des filles, principalement dans le Nord Kivu et dans le Kasaï, en attendant que les statistiques nous parviennent, les statistiques du gouvernement. Mais à notre niveau, nous avons, selon les éléments recueillis, ce taux d'accroissement au niveau du Kasaï et du Nord Kivu qui sont quand même excellents. Et des positifs aussi, en tout cas, nous sommes déjà en pleine phase de, toujours dans les hors sessions d'épreuves orales de français. En tout cas, jusque-là, tout se passe aussi bien sans beaucoup d'incidents. Mais du moins, c'est que nous avons aussi noté à notre niveau de monitoring, c'est au niveau de l'organisation. Cette édition présente quelques failles. Vous avez dans la délivrance des macarons. Donc, sur ce point, l'inspection doit fournir des efforts parce qu'il y a eu des écoles, de ces centres plutôt, où les candidats ont accédé sans macarons, parce que déjà au niveau des services de l'inspection, donc dans la délivrance, il y a eu des retards et cela donne même lieu à des pratiques de corruption des pots de vin, parce qu'il y a une forte demande et quand les gens sont beaucoup à la queue leu-leu et les gens font recours aux pots de vin pour être servis rapidement. Il y a aussi des cas inquiétants, c'est toujours dans le cadre de l'organisation, et là c'est plus précisément en ce qui concerne le fond. Nous avons noté de plaintes de la part de chefs d'établissement d'enseignement technique qui, autrefois, faisaient recours à ce que nous avions dénoncé lors de nos émissions précédentes, de frais techniques, orgamat, plutôt les frais d'organisation matérielle, orgamat comme on les appelle, et nous avons apprécié à son juste titre quelques rappels faits par le gouvernement cette fois-ci pour exiger aux IPP d'être regardants face aux antivaleurs. Alors il y a eu des réunions, nous avons apprécié ces réunions qui ont rappelé aux chefs d'établissement d'éviter de recourir aux antivaleurs, notamment aux frais prohibés et illicites dans l'orgamat. Mais cependant, les chefs d'établissement disent, comme nous l'avons dit, il faut que les trésors publics s'assument, il faut que le gouvernement s'assume. Ces chefs d'établissement disent qu'ils n'ont pas de moyens pour acheter les intrants en prévision des épreuves.
Des pratiques professionnelles.
Professionnelles qui auront lieu la semaine prochaine. Et c'est là même pour supporter aussi les coûts de transport parce que il y a des établissements qui où les candidats doivent quitter l'école pour aller vers le centre en parcourant quelques distances. Donc il faudra trouver le moyen de transport.
Serge Bondé, pouvez-vous d'abord nous rappeler comment se présentent les calendriers de ces examens? Le lundi, c'était ils ont commencé par quoi et ils vont finir par quelle épreuve?
Oui, le lundi c'était la dissertation.
Oui.
Et toute cette semaine, il y aura donc l'épreuve de français, de l'oral de français, puisque il y a
ce sont le des français oral. Et,
oui, le français oral. Ce sont des centres. Il faut finaliser avec tout les centres. Et la semaine prochaine sera consacrée aux épreuves de pratique.
Aux pratiques professionnelles.
Lundi, il y a la dissertation. Mmh. Le mardi, épreuve traditionnelle. Donc, mercredi, aujourd'hui, jusqu'au samedi, oral de français. Et la semaine prochaine, la pratique professionnelle.
Voilà. Nous avons déjà les réactions des internautes sur la page Facebook d'Okapi Service. Et en ligne, on a Serge depuis Kindou. On va accueillir Serge et puis je vais lire quelques commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Serge, bonjour.
Bonjour Radio Okapi et bonjour à l'invité qui est mon maman.
Bien, Serge, bonjour, dites-nous comment ça se passe là-bas chez vous à Kindou, l'épreuve hors session de l'examen d'État, les épreuves.
Voilà, généralement, les épreuves chez nous se passent un peu dans le calme. Nous avons observé même notre gouverneur à l'intérim est allé lancer ses examens au niveau de Kabambare, où les élèves étaient apparemment un peu dans la joie. Mais je voudrais quand même déplorer quelque chose par rapport à tous ces examens qui se passent avec nos enfants. J'ai de moi-même avec les amis, on était hier, en train de regarder les élèves qui passaient. Il y a c'est tout le monde qui parlait en swahili. Personne ne pouvait parler de la matière ou discuter d'autres choses qui s'étaient passées à l'école. Il y a tout le monde qui vient qui ne parle qu'en swahili. Donc, et aussi une chose que nous avons remarqué quand nous les avons appelés, ils ont dit ces examens ici n'ont pas vraiment beaucoup de poids parce que nous attendons seulement les examens proprement dits. Parce que vous pouvez même échouer dans ça parce que ces examens ici ne vont pas à Kinshasa parce que ça s'appelle chez nous en swahili biongeza, c'est-à-dire quelque chose de plus. Vous pouvez ou ne pas passer ces examens, ça n'a pas vraiment beaucoup plus de poids. C'est ce que je voulais un peu demander à notre invité. Est-ce que ces examens, quel est l'apport de ces examens par rapport aux examens d'État proprement dit? Est-ce que vous pouvez manquer cet examen et vous focaliser seulement aux examens d'État proprement dit? Est-ce que l'élève saura ou aura son diplôme d'État ou si vous manquez cet examen, vous n'allez pas avoir votre diplôme d'État? Voilà la question à l'invité.
Bien, merci. Jonas de Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel. Bonjour à l'invité et à tous les auditeurs qui nous écoutent.
Comment ça se passe là-bas à Kananga?
Oui, de manière générale, ça se passe bien, contrairement à l'année passée et même l'année antérieure où il y avait des troubles cette année. Vraiment, il y a la quiétude. Nous avons parcouru certains centres d'examen d'État. Ça se passe bien. Les conditions sont bien organisées. Les enfants ont commencé avec la dissertation un lundi, ils ont terminé à temps. Il y a des écoles où, à partir des 13 heures, les enfants pouvaient déjà commencer à sortir des salles. C'était quand même, bon, de manière générale, c'était bien passé. Mais on a presque, ce qu'on déplore un peu, c'est le niveau, la baisse sensible du niveau. Parce que moi-même, je suis professeur de français, j'ai eu à participer, j'étais juriste. On a reçu des candidats dans une école, bon, mais il faut voir les niveaux trop, trop bas. Mmh. Les enfants ne savent pas vraiment...
Ils s'expriment mal en français.
Ils ne savent pas s'exprimer en français. Ils ne savent pas s'exprimer en français pour la plupart. C'est pas tout le monde. Il y a vraiment des élèves qui répondent de manière très correcte. Mmh. Et quand on essaie de les soutenir, bon, ils sont en train aussi d'avancer des zones telles que le calendrier scolaire de cette année était trop acculé. Ils n'ont pas eu le temps de se préparer suffisamment. Tantôt, c'est la rupture. Tantôt, c'est la reprise. Il n'y a pas de congé. Ils n'ont pas le temps de vraiment de revoir leur matière. C'est ainsi que, peut-être pour demander, comme l'invité, c'est un agent, un opérateur pédagogique, c'est pour demander cette fois-ci la rentrée scolaire de l'année prochaine. Si on peut voir un peu comment harmoniser le calendrier, de façon que les élèves aient quand même un temps de repos, au lieu que tantôt, à peine terminé les examens, ils recommencent les enseignements. Voilà un peu ce qu'eux disent, que c'est ce qui a fait en sorte que peut-être ils ne se retrouvent pas correctement dans les centres devant les examinateurs. Mais de manière générale, c'est bien passé à Kananga et nous félicitons les autorités provinciales.
Bon, c'est pas encore terminé, ça va se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine. Hein?
Oui, ça va se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine, oui. Bon, oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on a terminé l'oral de français pour certaines écoles. Les écoles techniques vont jusqu'à lundi et mardi, je pense.
Mmh. Bien, merci. Si tout va bien, nous recevrons tout à l'heure, Monsieur Jacques Odia Musungai, inspecteur général de l'EPST. Il va me rejoindre tout à l'heure, si tout va bien, pour échanger avec vous autour de ces épreuves. Patrick, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
On vous écoute. Comment ça se déroule à Kisangani?
Bon, certainement, oui, ça a été. Les élèves continuent à passer cette épreuve. Mais moi, je pense que nous sommes sans oublier que le niveau de l'élève congolais n'est pas à son meilleur niveau. Hein. Surtout avec ce que nous avions connu, le Covid-19, ça a bouleversé les programmes chez vous. Mais si vous regardez, le programme n'a pas trop changé. On a maintenu la période normale où la dissertation, ça se passe. Mais moi, je pense que ces élèves-là auront beaucoup de lacunes dans leur parcours. Hein. Ce n'est pas à l'université qu'on va les apprendre comment devenir ou soit donner les meilleurs d'eux-mêmes. La base de la formation, c'est l'école primaire et secondaire.
Patrick, vous voulez dire que ces élèves n'ont pas été bien formés?
Certainement, oui. Selon moi. Vous savez, avec ce système de Covid-19, il y a eu des moments où les élèves ont pu passer l'état à la maison. Pensez-vous que le programme est vraiment fini? C'est la question que je m'étonne. C'est la question, pardon, que je me demande. Hein? Si on dirait la vérité, apparemment, moi je ne crois pas que le programme a été fini avec un peu d'état que ces élèves-là ont eu à étudier. Regardez les dangers qui vont nous guetter dans l'avenir. Moi, j'ai trop peur. Nous, on a été à l'université. Jamais on nous a appris comment parler français, comment écrire le français à l'université. C'est à l'école primaire et secondaire qu'on nous a appris tout ça. Admettons que ces élèves-là n'ont pas eu tout cet temps pour, revoir toutes ces matières-là. Oui. À l'université, ils auront beaucoup de mal, à s'adapter. Nous, on a, même à mon époque, quand j'étais encore étudiant, j'ai vu des étudiants qui étaient, compétents d'écrire même la dictée française. Ce n'est pas à l'université qu'on apporte ça. En tout cas, moi, je pense qu'on doit vraiment revenir sur certaines choses, surtout pour les systèmes éducatifs congolais.
Merci, Patrick.
Que soient respectés.
D'accord. Merci, Patrick de Kisangani. Sur Facebook, Dominique Njonjo Ngila nous a écrit. Il dit « Les épreuves se déroulent un peu bien, mais les préfets n'ont pas respecté l'argent demandé par l'État. Il y a certains préfets qui ont demandé 160 000 francs congolais. » Et si la famille n'a pas suffisamment de moyens, l'enfant ne va pas bien présenter les épreuves. Pour que les élèves arrivent à bien travailler les épreuves, que les préfets respectent le montant fixé par l'État, c'est Dominique depuis le Kasaï central. Mécha Kalonji est également dans les Kasaï centrales. En ce qui concerne ces examens, dans d'autres centres, les élèves sont soumis aux intimidations du chef des centres qui demande toujours de l'argent. Et avec ça, comment notre pays va se développer? Chose grave, c'est que la mentalité est toujours archaïque. Serge Bondedi.
Oui, merci beaucoup pour de toutes ces questions. Je crois que Serge Monomo a posé une question vraiment assez pertinente sur l'apport de ces épreuves dans le lot général de l'examen d'État. Et il est à noter que le preuve traditionnel, qui n'est pas la dissertation, est une épreuve de production écrite. Donc c'est sur papier. Et il faut savoir que c'est l'épreuve la plus pondérée de toutes les épreuves. Par exemple, en coupe et couture, elle est sur 30%. En électricité, mécanique, construction, c'est sur 25%. En électronique, sur 20%, etc. Mais malheureusement, elle est trop négligée par même les autorités et les superviseurs, bref, par tous les intervenants. La dissertation qui a eu lieu le lundi est pondérée que de 6%. Vous voyez, c'est ainsi qu'il est très important qu'à un certain moment, j'ai eu personnellement un échange approfondi avec l'actuel ministre sur ça. Il faut vraiment, il est temps de voir de nouveau, de scruter de nouveau, d'évaluer l'examen d'État. Parce que c'est ça que je crois même Jonas a c'est qu'il a fait mention de la baisse du niveau sensible du niveau des enfants. Et là, comme on le dit souvent, je crois que même quand la plupart des ministres lancent les épreuves, ils disent, et c'est ça la réalité, que l'examen d'État n'est que le couronnement de toutes les connaissances acquises durant le cursus scolaire.
Donc, alors Serge, vous confirmez ce que les auditeurs disent, que le niveau des enfants a vraiment baissé?
Le niveau est très bas. Le niveau est très bas. Vous pouvez voir déjà au niveau même de l'habillement des enfants. Vous sentez que beaucoup, curieusement, on a vu sur terrain qui sont très mal habillés, c'est-à-dire ça monte déjà les niveaux. L'expression lorsque vous conversez avec les enfants, il est vrai qu'il y a de meilleurs. Il est vrai, ça c'est évident. On ne peut pas que voir les côtés négatifs, mais dans la loi de la statistique majoritaire, par rapport à l'ensemble du pays, on ne peut pas se référer qu'aux écoles de Lubumbashi, qu'aux écoles de Likasi, qu'aux écoles de Matadi, qu'aux écoles de Kinshasa, précisément à Gombe, ou je ne sais pas où, mais il faut voir l'ensemble de la République où le niveau est vraiment bas. Et donc, c'est parce que dès la première année maternelle, comment sont gérés le mécanisme de délibération? Donc, pour repenser à un meilleur résultat à l'examen d'État, la réflexion doit commencer au niveau de la maternelle, donc pour l'ensemble du système éducatif.
Et Serge, comment expliquer le fait que ces enfants qui ont un niveau bas, mais lors de la publication des résultats, ils font des grandes distinctions, tout ça, comment ils arrivent à avoir tous ces points-là?
Déjà, il y a un sérieux problème. Je crois que Imaye, le jour où vous nous donnerez l'occasion, on va en parler. Nous avons réalisé déjà, c'est un problème complexe qui est transversal. Vous avez au niveau des écoles, comme je venais de vous dire, le mécanisme de délibération dans les classes montantes. Et lorsque l'école est sérieuse et que l'enfant n'a pas réussi, on peut facilement prendre son enfant et le placer dans une autre école. Et là, vous avez la question de bulletins scolaires qui ne sont pas informatisés, le système n'est pas informatisé. Et vous avez aussi l'aspect de la marchandisation. Dès lors que l'enfant est considéré comme un patron, et si vous faites échouer l'enfant, c'est le promoteur qui s'abat contre vous, parce que cet enfant apporte des ressources, des capitaux en faveur de l'école.
Et les, donc, les promoteurs voyez, et les préfets, ils tiennent à la réputation de l'école.
Exactement.
Si l'école, les exactement. Enfants échouent l'année prochaine, oui. Il n'y aura pas exactement. Beaucoup d'élèves.
Exactement. Et vous avez aussi un autre aspect des choses. Il y a de ces enfants qui, beaucoup, moi je connais même dans mon entourage, des gens qui étaient en deuxième année, plutôt en septième année aujourd'hui, et du coup demain il est en sixième année des humanités, quatrième année et quatrième des humanités aujourd'hui. Vous voyez? Donc tout ce circuit du système n'est pas vraiment assez fiable dans sa gouvernance. La rigueur n'est plus au rendez-vous. Et vous avez ce que vous venez de dire, la réputation de l'école, et vous avez tous ces cas de fraude et de tricherie qui sont systémiques et systématisés, ce qui fait que l'enfant qui n'a pas réussi à la dissertation, qui n'a pas réussi aux épreuves traditionnelles, qui n'a pas réussi à la pratique professionnelle, mais curieusement, il a des points. Voilà un peu, c'est parce que les labos fonctionnent.
Voilà, les labos fonctionnent, les préfets et les promoteurs des écoles s'activent pour faire réussir les enfants. On va accueillir deux auditeurs, Debernice de Mouenéditou et Charles Kisimba de Lubumbashi. Debernice, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à l'invité du jour.
Comment ça se passe là-bas à Mouenéditou?
Ok, ça se passe très bien et du fait que cette année, nous avons vu un peu une grande différence par rapport aux années antérieures, comme prédécesseurs.
Prédécesseurs, il n'y a pas de souci.
C'est là qu'ils ont parlé avant moi, qu'il y a un peu une différence. Ici, à Mouenéditou, ça se passe très bien. Les finalistes, nous avons vu leur désir et nous avons vu qu'ils se donnent un peu par rapport aux années antérieure. Maintenant, comme l'invité l'a souligné aussi que les autres, qu'il y a un peu la baisse des niveaux des enfants. Alors, j'ai au moins trois questions à poser à l'invité. Qui est-ce qui est à la base de cette baisse de la qualité ou soit du niveau des enfants? Et qu'est-ce qui sont à la base aussi du niveau qui est un peu bas? Et qui est-ce qui favorise afin que les niveaux soient très bas au niveau des enfants? Et il peut aussi nous donner la suggestion ou soit qu'est-ce que nous pouvons faire pour relever le niveau des finalistes. Merci beaucoup.
Bien. Charles Kisimba de Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Charles? Comment ça se passe à Lubumbashi?
En tout cas, à Lubumbashi, ça se passe très bien. Mais je suis témoin oculaire d'une situation qui s'est passée dans une des écoles ici à Lubumbashi.
Laquelle?
Oui, il y a 13 finalistes d'une école que l'on ne peut pas citer. Ils se sont retrouvés écartés. Selon les informations reçues sur le terrain, il paraîtrait que leur préfet a dilapidé l'argent de ces finalistes-là, de ces minables élèves-là. Alors, dans son explication, le préfet des études a dit d'être en règle et il a brandi même la preuve de paiement que les problèmes, ça se trouverait plutôt dans les chefs des inspecteurs, c'est-à-dire à l'inspection. Alors, quand on a appelé, on a contacté l'inspecteur, l'IPP a dit que à ce moment, il est tellement difficile de faire la magie parce que les élèves n'ont pas été
enregistrés.
Ils n'ont pas eu le code pour toute passation des examens.
Oui.
Alors, j'aimerais demander un peu à l'expert, est-ce que on ne pouvait pas laisser ces pauvres-là qui ont souffert toute une année, dira, de présenter les examens et poursuivre les dossiers après?
Voilà, donc mais le préfet a exhibé les preuves de paiement. Il aurait payé toute la somme, mais les enfants n'ont pas eu le code.
Oui, il a montré même la preuve, même les informations circulent déjà dans nos chaînes de télévision locales ici. Et présentement, je vous signale, le préfet se trouve même à la police déjà. Mais avec sa preuve, il est en train de se dire innocent. Et les examens, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure où je vous parle, ils n'ont jamais piétiné les centres pour toute passation des examens, parce qu'ils ont été écartés en disant qu'ils n'ont pas eu même leur macaron, même leur compte, pouvoir devenir comme passeport moyen pour présenter les examens d'État. Alors, pour ne pas sacrifier les enfants d'autrui comme ça, vous savez, ici chez nous au Congo, nous nous débrouillons, nos parents ont beaucoup souffert, mais il ne fallait pas la fin déjà espérer que cette année je vais aussi briller, voire même jeter l'uniforme et lui briser son droit comme ça. Selon moi, je préconiserais à ce qu'on puisse un peu privilégier l'intérêt supérieur, que les enfants là puissent présenter les examens au lieu de les priver.
D'accord. Dommage pour ces 13 finalistes
pour terminer.
Oui.
Oui, concernant la baisse, le niveau des enfants, moi je pense que on devrait quand même être compréhensif. Les enfants l'année passée, ils n'ont pas fini l'année normalement. Moi-même qui vous parle, je suis aussi professeur de français. Quand nous sommes partis en mars, il y a certains chapitres contre la littérature négro-africaine. On n'avait pas encore entamé ça en cinquième. Et cette année ici en sixième, les enfants ne connaissaient presque rien. C'était du nouveau pour eux. Est-ce qu'il faut à tout moment condamner le niveau, à tout moment critiquer le niveau? Mais ce qu'on fait aujourd'hui, il y a toujours rue de répercussions demain ou après-demain. Les enfants, ce n'est pas de leur faute, selon moi, cette année.
Voilà, ce n'est pas de leur faute, c'est la faute au Covid qui avait tout bouleversé, tout le calendrier était perturbé à cause de Covid. Bien, on va accueillir André depuis Pueto, dans le Haut-Katanga. Bonjour André.
Bonjour aussi les journalistes, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, bonjour aussi à l'invité.
André, comment se déroulent les épreuves hors session de l'examen d'État là-bas à Pueto?
Monsieur le journaliste, d'une manière générale, les examens se déroulent très bien. En accalmie là-bas, très important vraiment. Mais nous sommes en train de déplorer certaines fraudes qui se passent dans certains centres qu'a organisé l'inspection principale provinciale. Et cette fraude-là est orchestrée surtout par les chefs d'établissement avec les chefs de centre. Au moment où je suis en train de vous dire actuellement, il y a certaines écoles, donc certains chefs d'établissement qui sont en train de demander 50 000 francs aux finalistes, qui sont en train de demander 40 000 francs aux finalistes, ce qu'ils appellent les frais de labo. Mmh. Alors, on ne sait pas, je voulais juste demander à l'ANR de faire des investigations sur ça. Ils vont dénicher les préfets là-bas qui se sont fait actifs pour demander cette somme de l'argent-là.
Bien, merci. Albert Kouloulou, voilà, je crois c'est Kouloulou, non, c'est Koutoulou. Il est à Kinshasa. Bonjour Albert.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Capiche. Monsieur l'ingénieur Albert Kouloulou, présentement je suis dans la capitale congolaise de la République du Congo.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux épreuves hors session de l'examen d'État, Albert?
Alors, si j'ai un peu à contribuer, si j'ai seulement concerné les autorités nationales ici, donc ce que j'ai observé à partir de demain jusqu'à présent, à partir d'hier jusqu'à présent, la première année qu'il y a une grande corruption qui se passe dans tous les centres de la ville de Kinshasa, parce que j'avais consulté déjà cet centre. Le problème, c'est quoi?
Il y a une grande corruption.
Si l'année travaille régulièrement et les services de sécurité comme DGM, à l'essence qu'on demande toujours aux finalistes de l'argent de la poche, dans la salle de classe, même les surveillants, même le lecteur là, ils demandent seulement aux finalistes, aux élèves finalistes de l'argent. Mais aussi le temps que leur travail, qu'ils effectuent là, à la fin du travail, on va le payer. Et comment un élève qui a quitté parfois sa maison, on lui a donné un 5 000 francs congolais pour le transport, ça peut lui coûter même 3 000 francs congolais. Il va rester avec 2 000 francs congolais. Arrivé à l'école, entrant dans la salle, on impose à tous les élèves de la salle que non, voilà, vous allez donner 5 000 francs congolais à chacun.
Maintenant, Albert, est-ce que vous avez des preuves? Vous avez des preuves par rapport à cela?
Ouais, j'ai des preuves. Hier, j'étais dans un centre, non? J'ai passé par mes investigations dans cette centre de la ville de Kinshasa ici. Mmh. Avant de parler quelque chose, moi j'ai certains, je peux aussi vous préciser, présentement je suis à Kinshasa. Les dossiers là, si vous voulez m'intéresser, je dois vous montrer qu'est-ce qui est passé. J'ai même des photos. Le problème c'est quoi? Nous déplorons pas assez ces comportements. Ce n'est pas le comportement normal. Ce n'est pas le comportement normal. Si c'est comme ça, j'ai demandé aux autorités congolaises au niveau de fin de l'année, si j'aime humanité, disons, on ne peut pas encore organiser les épreuves parce qu'on va seulement donner, on va laisser aller seulement à tous les filanistes de recevoir leur diplôme. Et serait mieux, j'aimerais.
Et qui demande de l'argent aux élèves? Qui demande de l'argent?
Notre pays, un système à partir de juin.
Albert.
À partir de juin, on peut revenir encore faire l'examen d'État. On
Albert.
On va réserver un test là qui serait à la base de vérifier si réellement les élèves finalistes ont été passés régulièrement au bas de l'école au niveau de la salle de 6e année. Parce que dans toutes les salles qui sont après là, les élèves étudient régulièrement. Mais directement à la salle de 6e année, on les demande de l'argent. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, la salle de la 6e année chez nous au Congo est réservée pour l'argent, ce n'est pas réservé pour les études.
Oui. Merci Albert de Kinshasa. Serge, il y a beaucoup de réactions. Il y a par exemple des Bernice de Mouenedi-Tou qui déplorent la baisse du niveau des élèves. Charles de Lumbashi nous parle d'un cas malheureux. 13 finalistes qui ont été écartés, qui n'ont pas pu passer l'examen pour non-paiement. Et pourtant, le préfet a exhibé toutes les preuves de paiement. Aujourd'hui, les enfants n'ont pas pu passer leurs examens. Votre réaction, Serge? Serge Bondedi.
Oui, merci. Je prends directement d'emblée rapidement le cas de Lubumbashi. C'est au niveau de la province éducationnelle, je crois, s'il s'agit de ces cas du Haut-Katanga 1. Les éléments en notre possession font état effectivement d'une exclusion de 13 enfants, s'il s'agit de ces cas-là. Font état de l'exclusion ou de non-admission de 13
finalistes
pour simple raison qu'ils ne sont pas connus du système. Et là, nous renvoie à un problème qui est fréquent dans les antivaleurs et plus précisément dans les écoles privées des Ngoulou. C'est-à-dire que souvent, les écoles privées dans le pays, puisque l'examen d'État, comme on l'a toujours dit, c'est devenir les gosses, enrôlent ou enregistrent ou font inscrire des enfants au-delà de la norme. C'est-à-dire que vous avez une salle de classe qui doit se limiter à 50 ou 60 élèves, mais qui compte près de 350 candidats. Et ces candidats, malheureusement, très souvent, ne participent même pas au cours. Ils attendent que leur diplôme. Et ces chefs d'établissement, particulièrement des écoles privées, fonctionnant avec les labos, font en sorte que ces enfants se présentent que pendant les évaluations ou pendant les épreuves. Mais ils se permettent aussi de cacher certains, comme on dit les Ngoulou, pour que quand il y aura publication, vous avez des enfants qui ont réussi, mais qui n'ont pas étudié. Mais les élèves.
Mais Serge, chaque élève est censé avoir son macaron bien avant. Il doit être enregistré bien avant l'examen.
Exactement. Maintenant, les cas ici, les informations en notre possession, jusque-là, venues des sources officielles, font état des enfants non enrôlés. Donc, ils n'ont pas rempli au début leur fiche d'identification, mais on les a amenés au centre par le chef d'établissement pour contraindre le chef de centre à le faire accéder afin de passer leurs examens. C'est un peu la pratique, comme je vous ai dit, donc pousser aussi certains devant un fait accompli. Alors, certainement, selon les éléments qui nous ont été fournis, le chef de centre a évité de faire accéder les enfants qui ne sont pas connus. Donc, c'est la précision que nous avons eue, mais nous attendons voir l'évolution des choses parce que ces enfants sont victimes plutôt que coupables de la désorganisation. Parce que si l'inspection suivait de près le nombre des enfants inscrits au niveau des écoles, ceux qui sont enrôlés, ceux qui ne les sont pas, le pourquoi de leur non-enrôlement, ça pouvait éviter ces genres de choses. Donc nous pensons qu'il serait important pour le gouvernement, donc les responsables au niveau du Haut-Katanga, de prendre en charge cette situation pour que les enfants, dans la mesure du possible, ne soient pas stigmatisés.
Bien. Il y a également André de Pueto qui a déploré la fraude orchestrée par les préfets, les chefs d'établissement, qui ne cessent de demander les frais des labos aux élèves.
Oui, c'est ce que nous avons toujours dit. Les antivaleurs ont tellement élu domicile que c'est un combat et nous pensons que l'actuelle autorité donnera écho à nos multiples plaidoyers pour revoir un peu l'organisation, les conditions d'accès des passations dans les épreuves certificatives et dans le mécanisme de délibération au niveau des classes montantes pour rompre avec les antivaleurs dans la fraude et la tricherie systématisée. Donc, quand les enfants ne sont pas à la hauteur, quand l'école n'a pas préparé les enfants, les gens font recours à la tricherie pour permettre aux enfants d'avoir des diplômes et que cela contribue à la promotion de l'école. Ce sont des écoles marchandes qui sont dans ces systèmes. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas seulement les écoles que l'on considère privées, même des grandes écoles, les écoles renommées ici à Kinshasa, vous n'avez pas l'idée de ce qui se passe. La corruption se passe au niveau des bureaux climatisés. Ce sont des éléments que nous recevons des préfets eux-mêmes aussi, qui parfois sont, je peux dire, un peu traumatisés de ce qui se passe. Donc, la corruption, la fraude orchestrée est réelle, effectivement, parce que les gens voient le diplôme comme étant un appât. Alors, il est important, c'est ainsi que nous l'avions dit, je crois, lors de l'émission passée,
oui.
Tant que le système, l'examen d'État ou les épreuves certificatives dans notre pays seront basées sur l'argent, donc dans son accès et dans la participation, il sera de plus en plus constaté ce genre de
situation. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui propose qu'on puisse carrément annuler ces épreuves et puis lorsque les enfants terminent l'école primaire, au début on les soumet à un test de vérification des niveaux et puis bon voilà.
Ah bon, ce qu'il dit, c'est aussi une évaluation. Donc, je crois que l'inspecteur général, s'il va nous rejoindre, il donnera beaucoup plus de détails. Il y a des évaluations qu'on dit, je crois, ma mémoire ne me trahit pas.
Il y a le test de fin d'études primaire aussi qui existe.
Oui, donc les évaluations sont importantes pour évaluer le niveau de l'enfant. S'il a suffisamment acquis les connaissances qu'on lui a transmises. Le problème, c'est aussi le pays, vous voyez. Nous sommes un pays avec un contexte politique, économique assez particulier. Nous faisons ce travail pour appeler l'État à son rôle et à ses responsabilités.
Serge Bondé dit, un instant, on va accueillir des auditeurs, Maître Gaston de Kikwit et Glody Bouanganga de Bandundouville. Nous parlons des épreuves hors session de l'examen d'État, comment ça se déroule sur l'ensemble du pays. Maître Gaston, bonjour. Maître Gaston, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bon, disons... je voulais un peu poser une question, hein. Pourquoi ceux qui sont commis à l'organisation de cette activité depuis la nuit des temps, y a exigé aux parents et aux participants un montant qui n'est pas prévu par la loi. Vraiment, c'est ça la grande question. C'est sur ce montant-là qui qui doit être déboursé. Il semble même que il y a des sujets, hein, certains sujets par rapport à la journée de la dissertation, où on a exigé à certains élèves de débourser l'argent pour que le travail soit fait en dehors de la salle, parce que là, je voulais aussi qu'on puisse nous expliquer est-ce que le niveau de ceux qui participent à ces épreuves, vraiment c'est un niveau qui avance dans le bon sens ou comment, parce que jusqu'à la preuve du contraire, nous constatons que les élèves attendent que lors des épreuves pour passer des classes, il faut que l'agent puisse participer. Ceux qui savent travailler, ils travaillent à leur place et ils payent l'argent.
Les mercenaires.
Ce qui se passe, oui, ce qui se passe à l'intérieur de notre pays, surtout à l'intérieur, pendant ces moments, comme je l'ai dit, ceux qui qu'on appelle délégués, inspecteurs, surveillants, l'endroit qui abrite les activités, des trucs comme ça, doivent percevoir l'argent qui proviennent des parents et qui vont même au-delà de ce qui est fixé officiellement.
Merci.
Et ce qui conditionne aussi la médiocrité, ou soit les non-efforts, non-efforts de la majorité des élèves.
Des élèves, qui, voilà. Parce qu'ils sont sûrs qu'ils ont déjà donné de l'argent, et le préfet fera les suivis et ils vont passer. Merci, Maître Gaston.
Voilà, non seulement les suivis, il y a des gens qui travaillent même dans ce qu'on appelle laboratoire.
Oui, les mercenaires. Où,
comme on a dit là, il y a des sujets, on vous dit, il y a un sujet et tout le monde doit travailler sur ces sujets-là. Parce que j'ai mon petit qui passe aussi l'examen. Il nous a dit que dans leur école, on les a même dit que il y a un sujet déjà qui est en gestation, qui est connu, et il faut verser l'argent et on va travailler cela pour. Voyez un peu, hein. Parce que je suis en train. C'est cette manière-là qui justifie cette pratique de non-effort où les gens pensent que même si on travaille pas, on s'applique pas.
On va passer. Il y a pas de souci.
On va avoir son diplôme.
Merci, Maître Gaston. Glody Bouanganga de Bandundouville. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody. Bonjour à l'invité. Bonjour à tout le monde qui nous écoute à partir de ces moments.
Comment ça se passe à Bandundouville?
Oui, merci pour la parole accordée. Je pense que l'examen d'état se passe quand même bien ici dans la ville de Bandundu. Mais moi, personnellement, il y a certaines pratiques que moi, je déteste ce genre de pratiques. Comme il y a certains centres ici à Bandundu, vous allez voir quelqu'un qui est inscrit pour faire l'examen, mais lui-même, il n'a jamais arrivé au centre. Il a envoyé quelqu'un d'aller faire l'examen dans son compte. Donc, c'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre. Pendant que nous, quand nous avons fait l'examen d'état, chacun a son macaron qui entre au centre avec les macarons, avec le photo au passeport. Mais je n'arrive pas à comprendre quel est réellement le travail de ces chefs de centre-là qui fait de voir un infiltré qui entre comme ça et aussi au-dessus de tout le monde, vu qu'il y a les chefs de centre là corrompus avec des histoires comme ça. C'est un peu compliqué des pratiques que moi je déteste. Et à l'exception de ça, il y a aussi certaines pratiques que moi j'appelle vraiment de la corruption, parce que il y a au moins l'argent de l'orgamate. Je ne sais pas, l'État a fixé de frais pour payer, mais certaines préfets demandent encore l'argent de l'orgamate. À quoi sert cet argent-là? Moi, je veux savoir, parce que nous devons faire les choses selon ce que l'État nous dit. Mais comment est-ce que les préfets arrivent à modifier certaines choses à ajouter? Donc, c'est un peu bizarre. Moi, j'implique ceci. Si les autorités peuvent mettre un regard sur ça, je pense qu'à l'assessor ordinaire, ça peut éduquer les autres préfets. Parce que depuis que je suis né dans ce pays, je n'ai jamais vu, on a sanctionné un préfet aux épreuves de l'examen d'État, parce que ce sont elles qui sont à la détruction de la jeunesse. Comment voulez-vous quelqu'un qui est trop faible, vous l'aider dans toute facilité? C'est vrai qu'il peut avoir le diplôme d'État, mais en réalité, il n'arrive pas à se retrouver avec ce diplôme-là. C'est pour cela que dans notre pays, vous allez se rendre compte qu'il y a tant des intellectuels, mais beaucoup des intellectuels sont imbéciles, sont incapables de fumer même en français, et incapables de compléter même une phrase en français. Donc c'est compliqué, c'est parce que dès le départ, nous encourageons certaines pratiques et nous ne pouvons pas encourager.
Merci, Glody.
Alors qu'est-ce que M. Serge peut proposer dans cette idée?
D'accord.
Je pense que ce que j'ai voulu partager pour aujourd'hui, c'est ça.
Merci.
Je vous remercie.
Merci, Glody. Nous avons en ligne l'inspecteur général de l'EPST, M. Jacques Odia Moussungaï. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bienvenue dans cette émission. Alors, comment se déroulent les épreuves hors session de l'examen d'État dans l'ensemble?
Oui, dans l'ensemble, ça se passe bien. Mais les petits soucis ne manquent pas hein, dans toute organisation humaine. Mais en général, ça va. Nous avons un problème, vous voyez, à l'est, par exemple, à l'est du pays... à cause de l'insécurité, vous savez qu'il y a des poches hein, d'insécurité. Ça n'a pas eu lieu. Les épreuves ne se sont pas déroulées de ce côté-là. Nous voyons principalement où 44 candidats ne se sont pas présentés parce qu'ils n'ont pas pu atteindre leur centre de passation. Vous avez également, comme vous le savez, nous avons dû reporter la session, les épreuves pour Ituri, hein, du côté de Kampala. Vous savez, nous avons un centre organisé à Kampala. Il fallait traverser la frontière, mais on n'a pas pu parce que là, on nous a dit qu'il faut un petit temps à la frontière pour raison de quarantaine. Alors, ça ne pouvait pas se passer convenablement. Kigali, de la même manière, ça ne s'est pas organisé, mais du côté de Tanzanie, Kigoma, ça s'est bien passé. Mmh. Également, nous avons pu reporter pour le centre où il y a eu des soucis avec l'éruption volcanique de Nyiragongo.
Oui, Monsieur Jacques Audien. Quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique. Voilà, il y a un petit souci. Je pense que Marcel...
La longue distance qu'ils ont effectuée ne pouvait pas le... On va organiser une session spéciale pour ce coin-là. Et voilà. Et d'autres soucis, ça arrive plus souvent. Vous savez, il y a des écoles qui ne prennent pas leur inscription à temps. On leur demande de se faire inscrire, on ne sait pas, pour des raisons inavouées. Ils ne viennent que le jour même de la passation. Alors, ils ne sont pas dans le système. Nous ne pouvons pas continuer à encourager les antivaleurs. Et ces enfants-là sont exclus. Mais ils sont un nombre vraiment infime. Il ne faut pas tellement compter. Une trentaine, une quarantaine, ça va s'organiser plus tard. On verra ce qu'on peut faire, mais pas pour le moment.
Oui, il y a par exemple à Lubumbashi 13 élèves finalistes qui ont été écartés. Ils n'ont pas pu passer l'examen. Ils n'ont pas été enregistrés. Et pourtant, le préfet a brandi toutes les preuves de paiement.
Ah bon, j'attends le rapport, mais les informations à ma possession, c'est que ces élèves-là ne sont pas dans le système. On verra bien, les preuves sont de quel côté? En faveur des élèves, en faveur du promoteur, en faveur de l'administration, on verra bien. On pourra toujours récupérer les enfants, c'est la haute session, c'est vrai, mais il faudrait que les preuves soient tangibles. Voilà.
Bien, et qu'est-ce que vous dites à tous ces auditeurs qui ont appelé pour déplorer la fraude, la corruption, les préfets qui demandent aux élèves les frais des labos, l'argent qui n'est pas demandé officiellement?
Allô, mon frère, je ne vois pas dans le sens de correction chez nous informatisés quelqu'un qui donne 100 francs, 10 francs pour que l'enfant puisse réussir. Si ça se fait, il faut combattre cela. Je ne suis pas d'accord. Il faut les dénoncer, il faut les dénoncer et il faut sévir, il faut punir. Mais globalement, attention, il y a autre chose.
Oui, Monsieur Jacques. Voilà, il y a des soucis au niveau de la liaison téléphonique. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est plus là? Bon, voilà. Serge Bondé.
Ah voilà, ça c'est une façon de frauder. Il faut vérifier, il faut vérifier. Mais jusque-là, je n'ai pas ces éléments-là. Et avant la session, avant la fin de cette hors session, nous pourrons établir les responsabilités. Si c'est dans le chef des chefs de centre,
oui,
ou des organisateurs qui sont sous ma gestion, nous allons sévir. Mais globalement, ça se passe bien. Et les gens qui font payer excessivement, mais ils doivent être dénoncés, ils doivent être punis. Ça ne se fait pas, on ne peut pas aller au-delà des frais exigés. Je parle par exemple Kinshasa, on sait c'est 85 000 francs. Si vous allez au-delà, vous êtes punissables. Ce sont des actes répréhensibles qu'il ne faut pas tolérer.
Bien, il y a Glody.
S'il vous plaît,
oui.
J'ai été moi-même, je me suis déplacé, j'ai fait l'itinérance, je suis allé dans deux écoles qui ont été dénoncées de cette manière-là, mais ce n'était pas vrai. C'est que, effectivement, l'école, c'est une école privée, une école des prêtres d'ailleurs, c'est d'obédience catholique, une école privée. L'école a perçu globalement 400 dollars pour toute l'année, et y compris les 85 000 francs demandés dans le cadre de frais de participation à l'examen d'État, toute la session, la hors-session et la session ordinaire. Alors, les gens ont confondu, ils ont cru que les 400 dollars, c'est dans ce cadre. Mais je ne dis pas que c'est la même chose pour d'autres. Il y en a peut-être qui en ont profité, nous attendons un rapport là-dessus et nous allons sévir.
Bien. Glody de Bandundua déplorait le fait qu'il y a des infiltrés qui se retrouvent dans les salles de classe pour travailler à la place de certains élèves.
Oui, nous attendons des rapports là-dessus. C'est ce que nous appelons des cas de substitution. Si cela est vrai, on annule carrément l'épreuve, la session pour ces candidats-là. Et effectivement, il y a des petits problèmes peut-être de macaron, le badge d'identification. Mais ce n'est pas un problème parce que l'enfant, le candidat doit se présenter avec sa carte d'élève. Il a également la carte d'électeur. Parce que même le macaron que vous donnez, votre badge-là, on peut le retrouver ailleurs, non ? Même le badge de Okafi. Mais il faut renforcer les mesures de contrôle. Cela est vrai. Mais effectivement, s'il y a des cas de substitution, effectivement, nous allons sévir ces candidats-là. Ils sont déjà à leur travail et voués à l'échec.
Alors, comment se présente la suite des épreuves pour la semaine prochaine ?
Oui, oui. D'ici là, on va terminer. On va finir par la pratique professionnelle. Déjà, on a abordé l'oral de français. Et on y va. Je crois que ça va bien se passer. C'est au fur et à mesure qu'on avance que les choses se précisent et s'améliorent. Nous osons croire que ça va bien se terminer d'ici là. Quand on aura fini cette étape-là, on attend, et ce sera la grande session. Et c'est à la fin du mois tout prochain. Et voilà.
Bien, merci Monsieur Jacques Odia Moussungaï, inspecteur général de l'EPST. Excellente journée.
Merci à vous.
Bien, nous disons aussi, Serge Bondé dit on n'a plus beaucoup de temps malheureusement. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'ASBL IMAE et coordonnateur de la campagne Ecoleza Mumbongote. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bonne journée.
Merci.
Bien.
Merci.